France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
De l'art de trouver sa place ce samedi dans Plan large avec Alex Poukine et Joachim Lafosse et aussi Tariq Saleh et encore Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Trouver sa place dans le monde et où que ce soit, c'est ce à quoi évidemment nous aspirons toutes et tous et ce n'est jamais simple. Ça l'est encore moins quand on est une femme, qui plus est quand un deuil ou une séparation vous laisse seule avec des enfants à charge et vous plonge dans une précarité certaine. Comment y arriver? Les films qui nous occupent cette semaine proposent des réponses qu'on pourra voir comme complémentaires. Tous deux nous viennent de ce toujours très inventif et réjouissant pays de cinéma qu'est la Belgique, même si le premier est signé d'une cinéaste française, certes installée à Bruxelles depuis 13 ans, et le second d'un cinéaste bien bruxellois, huclois de naissance pour être précis, mais qui a cette fois délaissé le ciel si bas du plat pays qui est le sien pour l'azur lumineux de la côte du même nom. L'héroïne du film éponyme et premier long métrage de fiction d'Alex Poukine, déjà très remarqué pour ses documentaires Sans frapper et Sauf qui peut, s'appelle Kika. Assistante sociale de son métier, elle va découvrir qu'on peut faire du bien et pas mal d'argent aussi, en faisant mal à des hommes prêts à payer pour ça. Et comment on met ça en scène? Eh bien, elle nous l'expliquera dans un instant. Celle du 11e film de Joachim Lafosse s'appelle Sana. Sa récente séparation d'avec un mari fortuné l'a socialement et économiquement déclassée, ce qui ne l'empêche pas de squatter sans leur dire, le temps d'une semaine de vacances avec ses jeunes jumeaux, la villa tropézienne de ses ex-beaux-parents. Entre souvenirs d'enfance et métaphores de la clandestinité, 6 jours ce printemps-là tient beaucoup du film de Braque. Le réalisateur de l'économie du couple et des intranquilles nous dira comment tout à l'heure. Le cinéaste suédo-égyptien Tariq Saleh reviendra ensuite sur cet étrange alliage de satire politique, de thriller paranoïaque et d'hommage au grand cinéma égyptien qu'est Les Aigles de la République. Et en fin d'émission, Sandra Onana nous dira combien au cinéma comme dans la vie, avoir un bon copain ou une bonne copine, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au monde à l'occasion d'une programmation sur l'amitié aux entrevues de Belfort. Mais pour l'heure, il est temps d'apprendre 2 ou 3 choses sur comment survivre sans ressources officielles. Nous sommes à l'équivalent bruxellois de la CAF.
Vous travaillez au Black?
Non.
Comment vous payez votre loyer?
Ça dépend. Je me débrouille.
Vous pouvez me dire, je suis pas flic.
Je vends mes culottes sales. Je dis que je suis artiste et que c'est pour financer une expo et du coup, les mecs se prennent pour mes mécènes.
Ah, ok. Et vous payez votre loyer grâce au...
Ouais, je vends mes culottes 100 euros.
Vous vendez une culotte 100 euros?
Ouais.
Eh bien voilà qui ouvre des perspectives. Bonjour Alex Poukine.
Bonjour, j'espère.
Ben oui, écoutez, ça va, voilà, ça ouvre des perspectives. Comme je dis, Kika, je l'ai dit, est assistante sociale. C'est dans ce cadre qu'elle rencontre cette jeune femme qui lui explique comment elle s'en sort sans revenu déclaré. C'est donc une personne qui essaye de faire le bien et qui essaye de bien faire son travail. On y reviendra, malgré les embûches et les lourdeurs, notamment de l'administration qui l'emploie. Et voilà qui nous renvoie à l'autre film de vous qu'on a vu cette année. C'était un documentaire en milieu hospitalier, un genre très répandu actuellement. Tant le mal qui ronge le service public de la santé nous parle toujours très directement. Ça s'appelait judicieusement Sauf qui peut. Quel lien y a-t-il entre ces deux films, Alex Poukine, et comment est-ce que l'un a pu nourrir l'autre et réciproquement? Parce qu'on imagine qu'ils ont été faits à peu près en même temps.
Exactement, ce sont des faux jumeaux.
Je pense que l'écriture de Kika a été très fort impactée par Sauf qui peut, parce que donc c'était un peu la question de Sauf qui peut. J'y filmais des simulations où en fait on essaie d'apprendre au personnel soignant à être dans un espèce d'idéal relationnel comme ça, de bienveillance. Or, les conditions de travail font que la bienveillance leur est presque, il est presque impossible pour eux de la pratiquer, puisqu'ils n'ont ni le temps, ni les moyens matériels, humains de le faire. Et du coup, c'était hyper important pour moi je pense que Kika soit assistante sociale, parce que je pense que comme ces soignantes et ces soignants, Kika aimerait faire son métier le mieux possible, et en fait, elle n'a pas les moyens de le faire. Donc, elle est constamment, au bord du burn-out, constamment en train d'essayer de dépasser le cadre pour essayer d'aider les gens le mieux possible. Et ce qui m'intéressait, c'est que Kika devient dominatrice par la force des choses et par les hasards de la vie aussi, si on veut. Mais en fait, finalement, la vraie violence, pour moi, elle est du côté de l'institution, du côté du centre d'aide sociale où elle travaille, plus que du côté du BDSM. Et ça, c'était très important pour moi qu'elle soit dans le film.
Est-ce que c'est plus compliqué d'écrire un personnage qui est gentil, qui est bon? Les frères Dardenne travaillent beaucoup cette question. On pense d'ailleurs aux frères Dardenne au début de votre film. C'est une des fausses pistes, ouais. Avec ce travelling qui suit un plan de nuque comme ça dans les couloirs de la CAF. Alors je dis, bon d'accord, on va tomber sur une épigone des frères Dardenne. C'est pas du tout le cas, mais il y a quand même cette question de la bonté, de la gentillesse. C'est toujours plus facile, j'imagine, d'écrire un personnage un peu méchant, et être bon sans être mièvre, c'est un équilibre à tenir.
Moi, je pense que la tendresse, c'est montrer la tendresse au cinéma, c'est très politique, et c'était très important pour moi, parce que bien sûr, dans les écoles de cinéma, c'est tout ce qu'on vous dit dans les manuels de scénario, le conflit, voilà, c'est le nerf de la guerre. Or, moi, je pense que aujourd'hui, à l'époque où on est, moi, je pense qu'il faut montrer des gens gentils, tendres, et particulièrement aussi des hommes gentils et tendres, parce qu'on en a besoin pour continuer à espérer, et aussi parce qu'on a besoin de modèles. Donc oui, effectivement, c'est plus difficile à écrire, mais je pense que c'est très nécessaire. Enfin...
je suis complètement d'accord avec vous, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on est toujours ravis de voir. À quel point cette Kika est une projection de vous-même?
À plein d'endroits, je pense que Kika est une projection de moi-même. Alors après Kika, je pense que j'ai mis dans Kika énormément de mes peurs. Pour moi, Kika, c'est la personne que je serais devenue si je n'étais pas devenue réalisatrice.
Tu peux raconter Simon Messasotto, quand il est venu nous parler d'un poète, en disant qu'il parlait de lui comme ce qu'il craignait de devenir.
Alors après, moi j'adore les assistantes sociales, j'en ai rencontré beaucoup pour le film, et vraiment je suis hyper admirative, mais j'ai une grande tante qui avait prédit, elle est numérologue à ses heures perdues, elle avait prédit que je serais assistante sociale, et j'avoue que moi, m'occuper des autres, même si je trouve ça super, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai mis vraiment toutes mes peurs dans Kika, aussi parce que j'ai commencé à écrire le film alors que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, et que j'avais très peur que mon compagnon meure et de me retrouver seule, mais avec deux enfants cette fois. Et j'avais cette idée de vendre mon corps, qui était à peu près tout ce qui me restait à l'époque, matériellement, m'était venue, et je m'étais dit, waouh, c'est quelque chose qui est vraiment, je veux dire, qui jusque-là a été impossible pour moi, qui était vraiment une impossibilité, parce que quand vous êtes petite, c'est à peu près l'antimodèle, c'est le stigmate absolu pour les femmes de devenir travailleuse du sexe. Donc Kika, c'est un peu un mélange entre moi et un ami à moi qui est assistant social et dominateur. Et puis après, et qui a fait en l'occurrence un burn-out énorme en tant qu'assistant social, et puis en tant que dominateur, et puis en tant à nouveau qu'assistant social, et puis après qui est devenu assistant parlementaire et dominateur. Voilà. Et donc, après, il y a aussi eu une énorme enquête auprès des dominatrices et des travailleuses du sexe. Et donc, c'est un peu... Kika a fini par une espèce de mosaïque de plein de choses que j'ai glanées au fil de mon enquête.
Et puis Kika telle que vous l'avez écrite, et puis Kika telle qu'on la voit à l'écran. Et là encore, j'imagine qu'il y a une évolution. Qu'est-ce que Manon Clavel lui a apporté? Parce qu'elle a un très étrange mélange et très touchant. Elle est à la fois très rude et très fragile en même temps.
Exactement. Et c'est pour ça que ça a été très très long de trouver Manon. On a cherché pendant 2 ans. C'était un casting énorme en Belgique, en Suisse, jusqu'au Québec. Si bien, comme on ne la trouvait pas à un moment donné, je me suis presque dit que j'allais jouer moi-même.
Ça avait été le cas dans votre précédent moyen-métrage?
Oui, mais alors là, franchement, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, vraiment, c'est comme un peu qui ne dit mot consent. Il y a quelques expressions qui ne sont pas vraiment très justes. Je pense que vraiment, j'ai été un million de fois mieux servi, entre guillemets, par Manon que par moi. Je pense que si Dieu existe, il m'a envoyé Manon. Au début, je voulais pas. J'hésitais à la voir en essai parce que je la trouvais un peu trop jeune pour le rôle et puis trop jolie. Alors, Manon est suffisamment généreuse pour nous avoir laissé l'abîmer à l'extrême. Mais oui, elle a tout. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement lumineux et il fallait ça aussi pour qu'on puisse s'identifier au personnage. C'est aussi quelqu'un de. Déjà aussi, c'est une immense actrice, c'est d'une précision incroyable. Et puis, c'est aussi quelqu'un de très dense, de très profond. Et voilà, on voit la lumière à travers la faille, quoi. Et puis, c'est aussi un film très drôle. Donc, il fallait qu'elle ait ce sens de l'humour-là et qu'elle comprenne le mien. Et puis, il fallait aussi quelqu'un qui soit suffisamment tout-terrain pour accepter ce que je lui proposais, qui, parfois, n'était pas une mince affaire, quoi.
Alors, comme elle veut bien faire son travail, exemple de moment assez drôle dans votre film, eh bien, elle va demander des conseils à des collègues un peu plus expérimentés qu'elle.
Tu fais que du BDSM ou...
Du BSM ?
BDSM ?
T'as des problèmes d'argent ? Tu sais, l'argent que tu t'es fait là, ça s'appelle la chance du débutant. Si c'était si facile de se faire du fric, il y aurait plus de putes sur Terre. Tu fasses attention, puis il faut que tu te fasses payer avant. Et que tu précises tes pratiques.
Il y a toujours des connards qui guettent les bobaines. Tes clients, faut les trier, hein.
Excuse-moi.
Déjà, tu dis toujours non à un truc. Comme ça, tu vois comment le gars, il gère ses frustrations. Et s'il supporte pas le cadre, tu le dégages direct, hein.
Et si, est-ce que, enfin pardon de vous poser des questions un peu bêtes, mais si, vous parliez de BSM...
BDSM.
Est-ce que ça existe sans pénétration? Des travailleuses du sexe qui se font pas pénétrer?
Bah ouais, tout existe. Il y a des dominas qui travaillent pas le plaisir génital, ouais. Ils touchent pas de bite, quoi.
Attends, c'est une niche.
Ouais.
99% des mecs, ils viennent pour pénétrer. Ou se faire pénétrer. C'est quoi ton problème avec la pénétration?
Ah, j'ai pas de problème avec la pénétration. C'est... Je crois pas que je serais capable de coucher sans désir.
Ah ouais. T'étais jamais forcé. Même pas avec ton mec.
Les gens, ils avalent des kilos de merde transgénique à chaque repas. Ça dérange personne, mais une bite propre dans un vagin, tout le monde est choqué.
Évidemment, dit comme ça, ça fait voir les choses tout différemment. S'il avait été un peu plus loquace, ce sont des propos qu'aurait pu tenir la Jeanne Dielman de Chantal Akerman, par exemple. Ces conversations, on peut penser aussi plus tard à un autre moment dans un bar, le moment dit apéripute. Ça vient de vos propres recherches dans ce métier. On imagine là, c'est le côté réellement documentaire de votre film, Alex Poukine.
Oui, complètement. Il y a cette réplique-là, la péripute. J'ai pas eu besoin, j'ai rien inventé. Hein. C'est juste des dominatrices en l'occurrence qui m'ont parlé de toutes leurs pratiques. Et c'était difficile d'écrire le film parce qu'il y avait tellement de choses extraordinaires que j'avais envie de tout mettre, ce qui nous donnait un bon catalogue BDSM, mais ça ne fait pas un film. Donc oui, je pense qu'il y a il y a plein de documentaires à faire sur la question, mais en l'occurrence, moi, c'est pas un film sur le BDSM. Donc, c'était aussi ça, la difficulté de l'écriture, quoi.
Mais cette ambiguïté documentaire-fiction, en tout cas, vous intéresse suffisamment pour avoir tourné dans un réel hôtel de discrétion, comme on appelle ça en Belgique. Les sons, notamment, d'ambiance, on dira, sont complètement documentaires. Mais il y a même une ambiguïté sur les personnes qu'on voit. C'est-à-dire que si on ne connaît pas par cœur tout le beau teint des actrices et des acteurs belges, on peut se demander qui sont ces personnes. Est-ce que ce sont des professionnels du sexe ou des professionnels de la comédie qui joue, et à un moment on s'en fiche un peu, mais vous jouez quand même peut-être sur cette ambiguïté.
Oui, ça m'amusait. Alors, on a casté pour le film, enfin, je dis on, Emmanuel Nico, qui a fait le casting en Belgique, a casté énormément de travailleuses du sexe et de dominatrices en particulier. Et certaines jouent leur propre rôle, certaines jouent d'autres rôles dans le film, et puis aussi, il y a beaucoup de comédiennes professionnelles qui sont par ailleurs travailleuses du sexe, et puis certaines qui ne le sont pas, parce que on a tendance à croire que les travailleuses du sexe, c'est un peu une catégorie professionnelle très éloignée de nous. Or, en castant le film, on s'est aperçu que le métier de comédienne étant tellement précaire, il y en a beaucoup qui, pour pouvoir continuer à gagner, enfin, à payer leur loyer et à continuer à jouer, sont travailleuses du sexe par ailleurs. Donc oui, j'aime beaucoup, en fait, mélanger, et puis brouiller les pistes. Je ne vous dirai pas qui est qui, mais ça m'intéressait en fait. Puis oui, en effet, tourner dans un hôtel de discrétion, je trouvais ça drôle parce que il y a une partie donc de l'hôtel qui continue à être en activité et, comme vous l'avez dit, les murs étant très très fins, on avait l'ingé son, le pauvre a dû faire face à quelques difficultés, mais finalement, elles aident le film.
Oui, mais j'imagine vos actrices et acteurs dans l'ambiance. Je voudrais revenir sur cette question de la comédie, parce que c'est un film qui est effectivement très drôle, mais qui ne se moque jamais de ses pratiques, et qui est très drôle sur un côté presque burlesque, c'est-à-dire on doit utiliser des objets qui sont pas toujours évidents à maîtriser quand on débute. Il y a plein de techniques, et quelque chose de très prosaïque chez vous. Comment on nettoie, par exemple, un godemichet ou d'autres choses. Alors, comment est-ce que vous avez placé ce curseur-là entre à la fois la description très concrète d'une pratique, un respect pour les personnes qui s'y impliquent, mais d'y mettre une cocasserie quand même assez, assez permanente?
Ben, je crois qu'une partie de l'humour du film vient du fait qu'on s'identifie à Kika et qu'on la voit en fait apprendre son métier, rentrer dans le rôle, et au début être une très mauvaise comédienne, dans le sens où elle essaye de jouer ce rôle, mais sans avoir du tout les codes. D'ailleurs, Manon a fait un stage chez les assistantes sociales pour préparer le rôle, mais je lui ai demandé de ne pas du tout préparer le rôle, ce qui est vraiment contre-intuitif pour elle, parce que c'est une grande comédienne, elle aime beaucoup, beaucoup préparer. Moi, je lui ai dit, je ne veux rien que tu saches des dominatrices.
Oui, elle découvrait en même temps que son personnage.
Exactement, pour pouvoir jouer ça aussi, de cette espèce de ce truc où on essaye d'avoir l'air et on n'a pas l'air du tout, et on essaye de faire comme si, d'avoir une espèce de prestance comme ça qu'on n'a pas. Et ça, je trouvais ça très très drôle, parce que je pense qu'on peut toutes et tous s'identifier à ça. Qu'on a essayé de devenir dominatrice ou pas. Et donc, la pauvre, elle est en effet mise dans des situations où au début, je pense que l'indication c'était dis-toi, que diable allait-elle faire dans cette galère? Tu te vois de l'extérieur, tu te dis mais c'est pas possible, si un jour je dois le raconter à quelqu'un, il va pas me croire tellement que c'est énorme. Et puis au fur et à mesure, en fait, elle se confond avec son rôle. Et ça, je trouvais ça très intéressant aussi. Parce que je pense que, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, et si vous avez vu mon documentaire, ce truc de fake it until you make it, la façon dont, parfois, on devient ce qu'on joue.
Oui, parce que par le jeu, on touche à quelque chose de très intime, et chez elle, c'est peut-être la possibilité de l'abandon, c'est la recherche du contrôle, et de pouvoir simplement laisser aller ses larmes.
Voilà. Vous l'avez très bien dit. Je pense que moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est que elle cherche quelque chose. Alors, elle croit qu'elle cherche de l'argent, et effectivement, c'est aussi ce qu'elle cherche. Ses enjeux extérieurs, ça va être ça. Mais les enjeux intérieurs sont plus subtils, et j'ai l'impression qu'elle cherche à avoir le contrôle sur une douleur qui la dépasse, qu'elle essaye de maîtriser. Elle essaye d'être du côté de la domination. Et en effet, ce qu'elle va apprendre, c'est que le vrai pouvoir est du côté de la vulnérabilité. Et de la consolation. Et c'est ce que je trouvais beau dans ce film. Je pense que c'est la fin du film pour moi qui éclaire tout le reste.
Minuit se lève au détour, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle.
Vous voulez dire un mot sur Jean-Jacques Goldman, Alex Poukine ?
Jean-Jacques, si tu m'entends, vraiment. Enfin, d'ailleurs, je vais vous voyez parce que je ne vous connais pas, mais merci énormément pour la musique. Pour Pas Toi, c'était vraiment... Vous nous avez fait un prix incroyable et vraiment, vous êtes d'une générosité. Je vous aime et je vous admire.
Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. La peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.
Merci Alex Poukine pour apprendre deux ou trois choses qui pourront vous servir dans la vie, notamment comment séduire une jeune femme en chantant du Goldman. Kika est sorti en salle ce mercredi. Il figure d'ores et déjà dans la présélection du prix Louis de Luc parmi, côté premier film, Arco, L'épreuve du feu, Le rendez-vous de l'été et Nino. Pour les plus expérimentés, ce sont Dossier 137, Enzo, La petite dernière, Laurent dans le vent, Love Me Tender et Nouvelle Vague qui se disputeront le Goncourt du cinéma. Les lauréats seront dévoilés le 10 décembre. Bonne chance donc à Kika, tout comme à son interprète, Marion Clavel, qui figure sur la belle liste des révélations des Césars. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on reste en Belgitude avec Joachim Lafosse, grand cinéaste du conflit, lui, de la violence, voire de la perversité en milieu familial, de folie privée à un silence en passant par un nu propriété, élève libre, l'économie du couple et les intranquilles. Pour son 11e long métrage, 6 jours ce printemps-là, eh bien, figurez-vous que c'est un nouveau ton qu'il adopte, ses modèles modalités habituelles semblant évacuées, hors champ et pourtant toujours sous-jacentes. Faut-il y voir le travail qu'il a effectué sur lui-même depuis qu'il y a 2 ans, une enquête le mettait en cause dans Libération pour des faits pouvant relever du harcèlement moral ou sexuel. Le cinéaste en tout cas a fait face à ses démons, il s'en était excusé auprès des victimes qu'il avait dénoncées et tâché de modifier ses pratiques. Ce nouveau film explore quoi qu'il en soit autre chose, de l'ordre de la douceur, de la tendresse et du plaisir à être ensemble, même quand on est là où on ne devrait pas être, pour cette jeune femme magnifiquement interprétée par Eye Haidara, obligée de cumuler les petits boulots depuis sa séparation avec un homme riche qu'il a laissé sans le sou. Pas une raison pour ne pas offrir des vacances dignes de ce nom à ses jumeaux d'une dizaine d'années, fût-ce clandestinement, dans la villa tropézienne de ses ex-beaux-parents. Nous avons rencontré Joachim Lafosse dans un hôtel en face de la gare du Nord, entre 2 trains, Bruxelles-Paris et retour.
Oh les garçons.
Quoi ?
Jouez pas au foot ici.
Allez les gars, on arrête, c'est bon, on y va.
Vous êtes allés chez Delphi ?
Oui.
Et on avait Elsa et Thomas.
Non mais les gars, ça va pas là. Je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de venir ici. On n'a plus le droit d'être là. D'accord ? Donc on va pas chez Delphi, on va pas au 55.
Tu dormais ? Vous voulez te faire une surprise ?
Je préfère qu'on mange en bas. Ici, tout le monde va nous voir. À partir de maintenant, on va plus au 55, on va pas sur la plage des propriétaires, d'accord ? On ira sur une autre plage et on reste discret. Et puis on allume pas l'eau et l'électricité, d'accord ? Parce que papy, il part jamais sans relever les compteurs.
Oui, mais papy va pas savoir qu'on est venu.
Vous ne discutez pas. C'est comme ça, c'est tout.
Bonjour Joachim Lafosse.
Bonjour Antoine.
C'est un film, quand vous en parliez il y a 2 ans, je crois qu'il s'appelait Les Petits Voleurs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce changement de titre ? Est-ce que c'était une façon d'éviter de charger d'emblée les personnages, de leur donner tout de suite une identité qu'il faut laisser aux spectateurs le temps de découvrir en fait ?
Bah, il y avait une ironie dans le titre que Bon, évidemment, en tant qu'auteur, je la comprenais, je la devançais. Enfin, c'était la mienne. C'est-à-dire, c'est évidemment pas des petits voleurs. Pour moi, c'est pas eux les voleurs. Ce trio, ces quatre personnages, si on met Jules avec eux, ils se rendent en vacances, en cachette, dans un endroit où il y a des grands voleurs. Et donc, c'était la référence, c'était par rapport à ça. C'est des quartiers dans lesquels tout le monde se ressemble, où il y a un concours à la plus grosse villa, c'était de là que venait le titre. Mais en m'approchant de la réalisation du film, je me suis dit, mais au fond, je suis vraiment en train de raconter un souvenir de vacances. Souvenir de vacances de l'époque où j'avais 10 ans, des vacances qu'on vit avec mon frère jumeau, et lors desquelles je pense qu'il se passe quelque chose de crucial pour mon frère et moi, c'est-à-dire que on découvre le déclassement que ma mère vit quelques mois auparavant, suite au divorce qu'elle vient de vivre ou qu'elle est en train de vivre. Et du coup, j'avais envie vraiment de... Là où j'ai fait des films vraiment au cœur de la crise, je pense à l'économie du couple ou d'une propriété, je voulais raconter la crise pas réglée et ses conséquences. Et aussi, si la famille, matière de cinéma et de fiction, d'ailleurs, famille d'ailleurs que je pense qu'il n'est possible de traiter... Enfin, beaucoup plus facilement par la fiction que par le docu, par exemple. Mais si la famille, c'est la propriété, c'est le territoire, ben, c'est une manière de montrer qu'il n'y a pas de famille, en fait. Pour moi, c'est pas ça. J'essaye de mise en place en mise en place, de faire voir à quel point, si ça tient là-dessus, ben, ça ne va pas. Et donc, cette manière qu'a cette maman de dire, au moment où je dirais qu'elle est repérée, elle est exclue et où elle se rend compte que vraiment elle fait plus partie de la bande. Et cette manière de faire voir à ses enfants et que le soleil et la mer ça reste gratuit et qu'il faut jamais l'oublier et qu'il est hors de question de céder sur ce désir-là et le plaisir d'en profiter. Voilà, Sana pour moi c'est ça. Et alors il y a aussi un désir de cinéma et de cinéaste qui est cette possibilité d'avoir une dramaturgie qui tient sur quelque chose de très simple, sur un tendeur dramatique qui peut emmener très loin si le quotidien est mis en scène et si on arrive avec l'équipe, avec les acteurs à capter la vie en fait, à essayer de pas venir un film, tout vient empêcher de faire vie, d'être naturel, et donc si on arrive ensemble par les travails de préparatoire, etc., si on arrive à y être sans être gêné par la technique et en se laissant vivre, si on arrive à faire vivre cette quotidienneté qui est juste malmenée par l'obligation de se cacher, ça je trouvais intéressant de voir de quelle manière avec la mise en scène on peut amener, jusqu'à quelle distance on peut amener un film. Mais aussi parce qu'auparavant j'ai fait des films avec des tendeurs narratifs puissants, quoi. Une mère qui dans le burn-out assassine ses enfants, un silence pesant que tout le monde connaît, mais et là c'était une manière de trouver, d'essayer d'être plus doux avec quelque chose d'âpre en dessous quand même.
Beaucoup de choses là, sans doute qu'ils sont à déplier, mais peut-être déjà cette question du temps circonscrit. Le film s'appelle 6 jours ce printemps-là. On peut penser à des, je sais pas moi, ça m'a fait penser au film de Sidney Lumet, son dernier, 7h58 ce samedi-là. Voilà, c'est vraiment des films de braquage, mais il y a 6 jours. Et 6 jours, ça veut dire une écriture, ça veut dire penser un temps, au montage aussi, peut-être équilibrer ces 6 jours. Comment les penser? Qu'est-ce que ça permet, presque de façon oulipienne, de se dire la contrainte, c'est 6 jours?
Je suis heureux de vous entendre parler de films de braquage parce que c'est quelque chose, tant à l'écriture que sur le plateau avec mon directeur photo et avec l'équipe éveillée, on se le disait. C'est un petit braquage. C'est pas pour voler des lingots d'or, mais c'est pour aller en cachette dans la villa des grands-parents paternels dont elle est séparée. Et il faut pas se faire repérer, il faut pas faire de bruit, pas utiliser la lumière... pas aller dans les endroits fréquentés, c'est un film de braquage. Dès lors que tout d'un coup, il y a des voisins qui sont là, on va plus passer par la gauche, mais aller par la droite. Il y a un jeu du chat et de la souris, et avec lequel, bon, de nouveau, c'est aussi un travail sur leur champ, parce qu'en fait, forcément, est-ce qu'ils vont être repérés? De quelle manière est-ce que ça résonne, ce qu'il y a autour d'eux, tout en étant avec eux? Et il y a autre chose, c'est le... Comme il faut se cacher... Ben, on peut pas utiliser la lumière, on doit fermer les rideaux, Et ça engendre un contraste entre ce qu'on vit le jour dans cette lumière du sud et ces plages dont on profite, enfin dont les personnages profitent, et puis la manière dont on est reclus dans la maison et on s'éclaire à la bougie. Et ça, pour un cinéaste avec un chef-op, se demander comment on vit, on fait vivre ces contrastes-là dans un même film, ça j'ai trouvé super, super passionnant à faire. Et je dois féliciter, enfin je l'ai dit, Jean-François Hensgen, c'est mon 7e film avec lui comme directeur photo, et j'ai vraiment beaucoup aimé le voir trouver des solutions, me faire des propositions par rapport à ça.
Et sur la question du temps ?
Et sur la question du temps, bah, ça c'est surtout Marie-Hélène Dozo, quoi, c'est avec la monteuse. Mais en fait, c'est pas un film qu'on a mis longtemps à monter, et c'est aussi, en fait, oui, il y a un élément déclencheur qui arrive dès lors qu'elle dit « Ok, on y va, mais on dit rien ». Mais après, c'est une succession de petites aventures. Mais si ces petites aventures ne sont pas conçues comme un petit film en soi, ben on s'emmerderait vite. Or, j'espère, et ce que je découvre avec le public, c'est que les gens, pour eux, c'est aussi haletant qu'un suspense. Mais sur des enjeux qui sont plus ceux de Ozu que de Michael Mann. Quoi, voilà.
Vous l'avez dit, ça vient d'un souvenir d'enfance. Or, dans le film, et sans doute parce que depuis vous avez un peu vieilli et que vous-même vous avez des enfants, c'est plutôt tout de même le point de vue de la mère que vous adoptez. En tout cas, c'est elle que vous suivez. Vous la filmez en cinémascope, mais de très près. Le film est presque une étude de visage et de ce qui s'y joue et de ce qui s'y traduit des situations en permanence.
Une fois qu'on est dans le sud, on élargit quand même de temps en temps parce qu'il y a la vie de... Enfin, c'est une manière de faire vivre le plaisir des décors et de cette respiration qu'elle s'offre. Mais... Enfant, je me souviens à la fois de l'excitation, de la joie et de l'amusement de cette situation et d'une énorme angoisse. Mais en l'écrivant, je me suis dit, mais comment ma mère a fait pour tenir ? Parce que nous, on était insouciants, on avait 10 ans. Mais elle devait avoir peur d'être pincée, d'être repérée, et ce qui a fini par se passer. Mais elle s'est mise là dans une situation qui devait être... C'est-à-dire, je pense qu'enfant, on essayait de déceler. On voyait pas grand-chose, mais adulte, en interrogeant cette histoire, ce qui s'était passé là, je me dis, mais... Et d'où mon envie de le regarder quand même par elle, par Sana, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est elle qui donne elle, sans être professorale, mais il y a une leçon qu'elle, dans la manière dont elle tient, dont elle ne cède pas, dont elle reste digne. Mais je trouve que c'est aussi le regard sur elle, mais c'est aussi le regard des enfants sur elle. Quand les enfants lui demandent... Mais maman, peut-être que papy et mamie seraient d'accord qu'on soit là. Et elle sait très bien qu'en fait, personne lui a laissé penser dans cette famille qu'elle quitte. Personne lui a laissé penser qu'elle avait la légitimité. Parce que en fait, quand on fait famille, normalement, quand on se sépare, on continue à faire famille. Ça peut arriver de se séparer. Et ce qui fait famille, justement, c'est de montrer qu'on a quand même encore des petits-enfants ensemble. Et puis ça continue, même malgré des nouvelles alliances et tout ça. C'est vrai que je regarde Sana, mais Sana emmène les enfants à la découverte de cette logique qui va les abîmer, mais en même temps qui va les amener à peut-être à penser ce que je vous dis aujourd'hui.
Faire famille, littéralement faire une famille au cinéma, c'est la fabriquer, puisque vous ne filmez pas une famille, vous l'avez créée. Mais comment est-ce qu'on donne ce sentiment qu'il y a famille ? C'est-à-dire qu'entre ces deux enfants et cette femme, il y a des petits gestes, des complicités, des choses évidentes, qui ont l'air évidentes, mais qui évidemment ne le sont pas au départ.
Déjà en essayant de se souvenir de ce qu'étaient ces petits gestes, un plat qu'on prépare, une manière d'emmener à la plage... de ranger les affaires à la fin de la journée, de nettoyer la maison quand on s'en va, de fermer les rideaux, d'aller faire une partie de pétanque. Enfin, donc, essayer de se souvenir de ce qui a fait ces moments joyeux et heureux, c'est aussi ce qui constitue la famille. Donc, proposer aux acteurs de les revivre, c'est déjà les mettre dans des conditions de joie partagée. Et puis, c'est du temps. Moi, j'ai cette chance, depuis quelques films, d'avoir des producteurs qui ont compris que le plateau est quelque chose de très angoissant pour moi dans l'exigence que j'ai pas toujours su faire avec cette exigence, et que depuis quelques années je me suis rendu compte qu'une des manières d'arriver plus apaisé, de pouvoir du coup mieux collaborer et échanger avec l'équipe, c'est de répéter tout le film dans le décor avant le tournage, sans caméra, sans rien, entre nous, comme ça, dans le calme d'une possible discussion qui n'a pas toujours sa place quand on est tous sur un tournage payé et que ça coûte cher, etc. Et donc, ces répétitions, 2 mois avant, dans le décor, ça aide. Puis c'est 10 jours où on est ensemble. On découvre, on fait des parties de cartes, on fait des trucs. Et puis, il y a Aïdara qui passe du temps avec les garçons avant. Et il y a autre chose, c'est que je dois faire des choix de mise en scène, de discussion avec les collaborateurs, les techniciens. Et à la fois m'occuper de ça et en même temps parler à des enfants pour leur dire si c'est bien ou pas, ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient faire différemment. Je suis pas sûr d'avoir toujours la manière adéquate. Je crains. Et donc depuis quelques films, depuis L'économie du couple en fait, ou avec Bérénice Bégeot, je lui avais demandé de elle parler avec les enfants. En fait, elle était ma porte-parole. Je lui dis, ah voilà, il y a ça, tu peux leur faire parler de ça avec eux, voir s'ils peuvent pas essayer autre chose. Et en fait, je pense que pour les enfants, c'est soulageant parce que du coup, ils parlent qu'à une personne ou deux. Et en plus, ils parlent avec les gens à qui ils jouent. Donc d'une certaine manière, moi, je dirige pas les enfants sur le plateau. Je veille à ce que, avec la référente enfant aujourd'hui, je veille à ce que ça se passe bien pour eux, qu'ils soient dans des conditions favorables à leur nature, en fait, d'enfant. Et tous les enfants jouent, savent jouer. Donc, c'est des mises en situation dont il faut protéger la possibilité d'être prise en main par ces enfants. Mais c'est comme ça que ça fait famille, je crois.
C'est un choix à la fois esthétique, artistique, mais politique aussi, de prendre une actrice comme Aïdara, de mettre une personne non blanche dans un milieu très blanc, sans que jamais vous en fassiez argument scénaristique, ce qui est sans doute le plus fort. Dans votre film, comment s'est fait ce choix ?
C'est une question fondamentale. Pour moi, un cinéaste, c'est d'abord et avant tout, et je passe mes journées, des mois, des années, à essayer d'écrire des personnages avec justesse. Ça, pour moi, c'est le travail du cinéaste et du scénariste. La sociologie, c'est autre chose. Mais la sociologie dit quelque chose d'une société, d'une région, d'un moment, d'une réalité sociale. Moi, j'ai rencontré Ayé. Ayé, je la trouvais super juste. Il se fait qu'en effet, comme on raconte l'histoire de quelqu'un qui ne s'autorise pas le droit d'avoir une légitimité, parce qu'elle finit quand même par se planquer, et avec Ayé, on se disait, mais en fait, aujourd'hui, des gens qui se planquent, mais il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Des gens qui se planquent pour aller dans un coin de rue, remettre de l'électricité dans leur téléphone, des gens qui se plantent pour aller chercher un peu d'eau, des gens qui se planquent. Enfin, trop de gens longent les murs. Et c'est vrai qu'Ayé, longer les murs, c'est quelque chose qui lui parlait. Et que elle me demandait de lui raconter ma mère. Moi, je lui racontais ce constat que je faisais de cette manière dont ma mère acceptait de se planquer comme ça. Et elle me parlait de la façon dont elle, dans la vie, elle a aussi dû se planquer. C'est pas le sujet du film, mais d'avoir cette chose en commun permettait d'essayer de donner une justesse à... Enfin, en tout cas, de composer quelque chose que moi, j'étais super heureux et touché de la voir. Elle dit rien, en fait. Elle essaye de cacher, de pas montrer qu'elle vacille à ses enfants, ce qu'elle arrive à faire, parce que du coup, elle leur offre des vacances sans être dans la panique. Enfin, pas trop, jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à ce qui arrive à la fin, mais... Voilà, et vous voyez, je réponds pas à votre question en fait, mais c'est pas du tout. Mais parce que ça ne devrait pas être une question. Ça l'est encore, évidemment, on va pas être naïf, mais c'est notre manière d'y répondre. Et puis, il y a le contexte. Elle fait pas partie des meubles. Voilà. Et puis, moi j'ai des souvenirs aussi. Enfin, j'ai des souvenirs de. Les plages, là, elles étaient. On était tous les mêmes. Il n'y avait pas de variation. Bon.
Alors, c'est un film qui raconte comment trouver sa place au soleil, hein, d'une certaine façon. Et littéralement, ce soleil, c'est pas le soleil que vous filmez d'habitude. Vous êtes un flamand. Là, c'est un soleil du sud et pas ce soleil du nord que vous avez beaucoup, beaucoup filmé. Il y avait, j'imagine, aussi ce plaisir-là de travailler cette matière lumineuse.
Ben, ouais. Aujourd'hui, je me rends compte que le cinéma, c'est la lumière. Mais vraiment, c'est pas une pause de dire ça. Quand on fait des films. Il y a des plans qui ne sont pas éclairés, il n'y a pas de plan. C'est mièvre, tout d'un coup vous mettez de la lumière et ça marche. La lumière du sud, moi je n'avais jamais pratiqué, je viens du nord en effet, j'ai un peu peur de ne plus pouvoir m'en passer. Quoi. C'est un truc, c'est d'une beauté, mais... Et aussi de devoir faire sans artificialité. C'est-à-dire alors oui, dans la maison, on devait un peu compenser, mais tous les extérieurs... et je trouve ça, c'est d'une beauté... c'est magnifique, quoi. En plus, si on rajoute à ça cette lumière l'azur, ça laisse une respiration qui est que je trouve géniale. Mais c'est, ouais, ça m'a rendu, enfin, bon, c'est quelque chose de troublant en tout cas.
On verra si ça ouvre une nouvelle période dans votre filmographie. Merci beaucoup, Joachim Lacote.
Merci à vous. Merci à vous. You see the world anew. Now can I see it too? Speech bubbles bursting. No need for sound. That's what pictures do. You hear the world anew. Now can I hear it too?
Jours, ce printemps-là est en salle depuis mercredi. Vous êtes toujours sur France Culture, vous écoutez Plan Large et sur vos écrans cette semaine, il y a aussi le nouveau film de Tariq Saleh qui, comme Nadav Lapine dans son film Oui, dont Lapine nous avait parlé dans cette émission, c'était en début de saison, bien le film à nouveau traite de la compromission d'un artiste avec un pouvoir autoritaire, en l'occurrence celui du maréchal Al-Sissi, devenu président par un coup d'État il y a 11 ans. Après le Caire confidentiel et la conspiration du Caire, les L'Aigle de la République est à nouveau un thriller qui s'attaque à la macabre comédie du pouvoir en confrontant deux pharaons, une star masculine du cinéma égyptien, jouée par l'acteur fétiche du réalisateur Fares Fares, toujours génial, et celui qu'il se retrouve obligé d'interpréter dans un film à sa gloire, le Raïs en personne. Dans un Caire à nouveau réinventé en Turquie, le cinéaste suédois d'origine égyptienne est interdit de séjour dans le pays de son père depuis qu'avec ses films précédents, il a jeté un regard acéré sur la politique et la religion d'État égyptienne, Tariq Saleh continue à travailler une figure qui manifestement l'obsède, un officier de sécurité de l'ombre, grand démurge aussi franc que brutal. Après le colonel que jouait Fares Fares dans La Conspiration du Caire, il s'appelle cette fois le docteur Mansour. Il ressemble à l'Omar Sharif des grands films du cinéma égyptien, à qui Les Aigles de la République est une véritable déclaration d'amour dans sa forme même, Tariq Saleh.
Moi, je suis un peu schizophrène d'une certaine manière, parce que il y a le scénariste Tariq Saleh qui parle avec le réalisateur Tariq Saleh. Donc, et les deux ne sont pas toujours sur la même page. Donc, le scénariste a écrit son scénario. Il voulait rentrer dans le niveau le plus élevé du pouvoir à travers le cinéma. Donc, le plus haut de la pyramide, en quelque sorte.
Tired cliché.
Donc, c'est un cliché un peu gardé maintenant. Mais Tariq Saleh, le réalisateur, lui, il lit ce scénario comme un idiot. Et il dit, en fait, c'est un peu comme un technicien. Il va dire, j'utilise quoi comme objectif là? Et dans Conspiration du Caire, le réalisateur a dit, voilà, il faut un 40 mm pour montrer justement l'étendue de la place, la différence donc avec ce jeune garçon quand il arrive de son petit village à cette grande institution. Donc avec l'optique, on ne peut pas mentir, il faut garder toujours la même. Mais maintenant, on parle du cinéma, et le cinéma, c'est le mensonge. Il faut raconter la vérité, même quand on ment, ça c'est très important. Mais je me disais, quelle est la façon la plus sournoise de tourner le film, en quelque sorte, et c'est avec un zoom, et avec mon chef opérateur, lui, il déteste les zooms. Et donc, quand je l'ai appelé, j'ai dit, on va tout filmer avec un zoom, lui, il était anéanti, quoi. Mais je lui ai donné un cadeau. Et j'ai dit, on va tourner en 65. Et là, il était content à nouveau, parce que pour lui, cette caméra, c'est exceptionnel. Donc, on utilise le pire optique sur la meilleure caméra.
Cette dialectique du meilleur et du pire, mais aussi de la vérité et du mensonge, c'est précisément ce que raconte le film Tariq Saleh. Et c'est très étonnant que votre héros soit quelqu'un qui mente tout le temps, y compris à lui-même d'ailleurs, et que votre méchant soit quelqu'un qui dise toujours la vérité.
Yeah, I have a confession that,
oui, je dois avouer que même quand j'ai fait la conspiration de Caire, et je m'identifie le plus avec Ibrahim plutôt que ce jeune pêcheur, mais je suis un manipulateur, je suis un marionnettiste. C'est dans ma nature. Donc, vous pouvez imaginer que le docteur Mansour, c'était un personnage qui était facile à écrire. C'est un réalisateur, au fond. Il serait un très bon réalisateur. Alors que moi et Fares, nous avons une relation qui date depuis longtemps. Donc, lui, il joue mon alter ego dans le film. Et Fares se joue lui-même.
Il y a dans votre film un moment très important, c'est la parade militaire, qui est à la fois montre la mise en scène du pouvoir, le pouvoir tel qu'il s'imagine, et qui renvoie évidemment à un moment très important de l'histoire de l'Égypte, qui est l'assassinat d'Anwar el-Sadat, le 6 octobre 1981. Pourquoi est-ce que vous vouliez filmer ça, Tariq Saleh ?
Alors, j'avoue, moi j'adore les parades militaires, les défilés militaires. Et l'Égypte les font bien.
C'est spectaculaire.
En tant que réalisateur, je suis très impressionné par la mise en scène. La France est pas mal non plus. Et ce n'est pas toujours un compliment. Les Américains, ils disaient que si vous êtes bon pour les défilés militaires, vous n'êtes pas bon dans la bataille. Mais je dirais que j'ai regardé chaque parade militaire depuis 2015 en Égypte et il y a eu une amélioration énorme depuis des années. En 2022, ils ont commencé à devenir vraiment très professionnels. En 2023, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, autour du 6 octobre, la moitié le jour, la moitié la nuit. Donc, c'était très dramatique. Moi, je n'aurais pas les moyens de faire ça dans le film. Je n'avais pas les moyens, mais moi, je mettrais la qualité de 2017 pour mon film.
Les Aigles de la République est en salle ce mercredi. Merci à Bernard Reeves d'avoir traduit les propos de Tariq Saleh. Côté réédition en salle, ne ratez pas ce chef-d'œuvre de perversité japonaise qu'est l'étrange obsession de Kon Ichikawa. L'occasion de revoir sur grand écran cet immense acteur qu'est Tatsuya Nakadai, mort samedi dernier à l'âge de 92 ans. Il y a aussi pour la première fois sur les écrans français le premier long-métrage de Francis Ford Coppola, à l'époque où il était produit par Roger Corman. Le thriller horrifique Dementia 13 qui prouve que le futur grand cinéaste opératique en avait déjà pas mal sous le capot quand il était jeune. Le film sort dès demain en prélude à une rétrospective en 7 films dont 2 Palmes d'Or s'il vous plaît, qui débute mercredi prochain en version restaurée avant une sortie prochaine en DVD, en Blu-ray, en 4K, etc. Palme d'Or encore, Christian Mungiu est le parrain du festival Un Week-end à l'Est du 18 novembre au 1er décembre, consacré cette année à Bucarest et à la Roumanie. Il y présentera une exposition et nombre de ses films, dont 4 mois, 3 semaines, 2 jours, dont j'aurai le plaisir de débattre avec lui. Ce sera jeudi prochain au Christine Cinéma Club, à l'issue de la projection. Ceci annoncé, il est temps de causer un peu amitié.
I want this one moment. It's what I want in a relationship, which might explain why I'm single now, haha. It's kind of hard to... It's that thing when you're with someone and you love them and they know it and they love you and you know it, but it's a party and You're both talking to other people and you're laughing and shining. And you look across the room and catch each other's eyes. But not because you're possessive or it's precisely sexual. But because that is your person in this life. And it's funny and sad, but only because this life will end. And it's the secret world that exists right there in public, unnoticed, that no one else knows about. It's sort of like how they say that other dimensions exist all around us, but we don't have the ability to perceive them. That's what I want out of a relationship. Or just life, I guess. Love. Blah. I sound stoned. I'm not stoned.
Stone ou pas, c'est en 2012 que la merveilleusement volubile Greta Gerwig, pas encore la réalisatrice de Barbie, donnait dans la peau de la Frances Ha de Noah Baumbach sa définition idéale de l'amitié fusionnelle, cette alchimie silencieuse qui ne peut se partager qu'avec une âme sœur. Le festival Entrevue de Belfort fête ses 40 ans cette année avec son habituelle compétition, toujours riche de belles découvertes, une fabrica consacrée aux frères Larieux, toujours bienvenue dans ce plan large, une exploration cinématographique du Jura voisin et une transversale intitulée En toute amitié, quel beau nom, qui cherchera à définir ce sentiment d'attachement si particulier et comment les cinéastes s'en emparent. Et c'est donc en toute amitié que je vous cède le micro à ce sujet, chère Sandra Onana.
Faut être un peu amoureux de l'amitié pour réussir les films de copains, c'est-à-dire ceux qui font l'effet de retrouvailles quand on les voit. Frances Ha, en 2013, typiquement, c'était la quintessence de la bonne copine du cinéma indé américain. Vraiment la fille cool de la bohème intello new-yorkaise à qui Noah Baumbach offrait tout à coup une égérie, comme une réponse à la création 35 ans plus tôt de Diane Keaton sous le regard de Woody Allen. L'exploit, c'était qu'elle appartienne si fort à son époque, cette héroïne en noir et blanc, sous les faux effets rétro du film. Ça racontait donc deux meilleures amies au carrefour de la vie d'adulte, le jour où l'une se case en couple et forcément doit abandonner son autre moitié, Frances. Signe que le marivaudage amoureux, ça devenait une formule ringarde pour parler des névroses de cette jeunesse-là. La passion amicale, en revanche, ça résume cet état un peu fœtal d'une génération anxieuse au moment d'entrer dans la maturité. Et donc c'était un film amical, c'est vrai, mais bon, c'était surtout un film raide dingue de sa comédienne et co-scénariste Greta Gerwig, dont c'est devenu le portrait, si bien que personne ne se souvient de la malheureuse Mickey Sumner qui jouait la meilleure copine. Et ça, c'est une entorse quand même, parce que normalement, en amitié, donc il y a les films de bande et il y a les films de duo. Les films de duo, c'est de la chimie. On fabrique une paire de corps à l'écran qui fonctionnent l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Comme l'aurait dit Agnès Varda, l'une chante, l'autre pas. C'était son musical féministe de 77 qu'on pourra aussi voir à Belfort. Il y avait la brune, il y avait la rousse, l'épouse malheureuse, la lycéenne émancipée. C'était Thérèse Lyotard et Valérie Mérès dans une chronique de lutte féministe de part et d'autre de mai 68, déroulée sur 15 ans. Donc l'amitié, elle se scellait dans un acte, c'était l'aide à l'avortement clandestin. Puis on avançait dans le temps. Et filmer l'amitié, c'est vraiment fabriquer de la durée à l'écran, puisque le cinéma a ce luxe de faire vieillir les acteurs en accéléré. On peut superposer le bilan d'une relation amicale et celui de l'histoire collective, avec un grand H. Donc ça donne des œuvres de mémorialistes. Pour Varda, c'était la légalisation de l'IVG, et c'était plein de joie qu'avait été taxé de naïveté à la Disney à l'époque. Pour Ettore Scola, par exemple, dans Nous nous sommes tant aimés, en 74, c'était désabusé, sous le régime du flashback. On traversait 30 ans d'histoire italienne, de la chute du fascisme au désenchantement des années de plomb. C'était un film de bande, pour le coup, sur la fin de l'innocence, la sidération du temps retrouvé. C'était donc les aventures un trio qui révélait la vanité de leur rêve de changer de monde, et ça aboutissait cette révélation amère, finalement c'est le monde qui nous a changé. Donc on fait pas les mêmes films de copains à 30 et à 40 ans, et on comprend pourquoi il n'y a pas que les films d'amour qui nous ont appris à pleurer au cinéma. Si on prend Mirage de la vie de Douglas Sirk, par exemple, merveille de mélodrame, 1959, c'est d'abord une étude sur l'entraide entre deux mères célibataires, l'une blanche, l'une noire, dans l'Amérique de la ségrégation raciale, puis sur ce jeu de miroir cruel entre les deux filles élevées comme des sœurs sous leur toit, mais dont l'une, métisse, se fait passer pour blanche et renie sa mère domestique. Bah, un mirage de la vie chez Douglas Sirk, par exemple, c'est de se croire si similaire dans l'amitié. Il y a cette illusion de se reconnaître dans l'autre pour finalement se découvrir si inégaux. Il y avait un peu de ça aussi dans « Où est la maison de mon ami » d'Abbas Kiarostami, 1987. C'est un petit garçon qui assistait à l'humiliation de son meilleur copain à l'école, déchirant, on s'en remet jamais. Pour ne pas qu'il se fasse renvoyer, il entreprend cette odyssée à pied à travers la campagne iranienne pour lui rendre son cahier. Mirage de l'égalité encore entre deux écoliers dont l'un vient d'un village pauvre et reculé. Et malgré tout, il y avait ce miracle de l'innocence héroïque que célébrait le film, puisque l'âge adulte n'a pas encore pollué ses relations amicales. Autrement, en matière d'amitié masculine au cinéma, on en revient souvent au film de gangster, à son énergie noire. Comment ça se fait? Parce que c'est les meilleurs dilemmes de trahison. Il y a qu'à voir Mickey and Nicky d'Hélène May avec John Cassavet et Peter Falk, vrais copains à la ville qui ne se lâchaient plus depuis qu'ils ont tourné Husband. Donc l'un est un malfrat en cavale, l'autre l'ami d'enfance qui vient à son secours. Ils sont minables et ils sont sublimes. C'est vraiment ce jeu des contraires, les facettes jumelles, comme si on avait divisé en deux un seul corps pour raconter l'amitié fatale. Il y a donc Mickey et il y a Nicky. Tout comme il y aura plus tard Jerry et Jerry pour Gus Van Sant. C'était son chef-d'œuvre métaphysique avec Matt Damon et Cassie Affleck. Inspiré d'un fait divers, en 2002, ces deux potes qui portent le même nom, donc qui se perdent dans l'immensité du désert californien, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils sont venus y chercher. Un seul en revient et il plaidera le crime de compassion pour justifier de ce qui est arrivé à Jerry 2. C'est encore une errance à pied sur des chemins qui ne mènent nulle part. Et donc, c'est une sorte de buddy movie dévoyé par la mort, le néant. Donc, non seulement le festival Entrevue de Belfort connaît ses classiques, mais c'est pas le seul. La Cinéthèque aussi, la plateforme des cinéastes qui fête ses 10 ans ce week-end et qui rend donc toujours visible 2500 trésors du patrimoine dans son catalogue. Hormis Mickey et Nicky, tous les films que j'ai cités s'y trouvent. Et donc, ça fait un paquet de retrouvailles entre copains.
Merci Sandra Onana. Le festival Entrevue de Belfort, c'est du 17 au 23 novembre. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Grégory Wallon et Gilles Gallinaro. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Camille Mathy et Anne-Laure Chanel.